Voici maintenant Expression Directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Aujourd'hui, cette émission est assurée par la Coordination Rurale.
Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui est consacrée à l'agriculture et notamment à certaines idées préconçues que l'on peut entendre au sujet de cette profession et des pratiques agricoles en général. Pour y répondre, j'accueille deux agriculteurs, Emmanuel Rizy, éleveur dans le Jura, et François Valrette, céréalier dans l'Allier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour introduire ce sujet, intéressons-nous d'abord à la rémunération des agriculteurs. La Coordination Rurale, qui est le deuxième syndicat agricole en France, syndicat dont vous êtes tous les deux adhérents, alerte régulièrement sur le manque de rémunération des agriculteurs. Pourtant, je ne suis certainement pas la seule à penser que si les agriculteurs ne gagnaient pas d'argent, ils arrêteraient ce métier, se reconvertiraient, mais surtout, ils n'auraient pas les tracteurs flambant neufs qu'ils ont. On sait également que le budget européen de la politique agricole commune est conséquent, avec près de 410 milliards d'euros, et je suppose donc que les aides versées aux agriculteurs le sont également. Alors, qu'en est-il réellement, François ?
Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les machines que nous utilisons, les tracteurs, les semoirs, les moissonneuses-batteuses, mais également les terres, les bâtiments, le cheptel, tout ça, ça constitue notre outil de travail. Et pour pouvoir produire des aliments de qualité suffisante et en quantité suffisante, nous avons besoin d'avoir du matériel performant. Et ceci étant, je vous corrige un tout petit peu, tous les agriculteurs n'ont pas forcément des tracteurs flambant neufs. En plus, une bonne partie de ce matériel est achetée à crédit, donc l'agriculture aujourd'hui est extrêmement endettée. Le vrai problème, ce sont les prix. Les prix ne sont pas rémunérateurs, les productions agricoles ne sont pas payées à leur vrai prix. Les primes compensatrices, les fameuses primes PAC dont on parle, ont été divisées par 2,5 et les normes sociales et environnementales ont explosé. Donc une rémunération des agriculteurs, une fois qu'on déduit toutes les charges, eh bien qui n'est plus là.
Autre interrogation. On peut lire dans certains articles de presse que l'élevage contribuerait significativement au réchauffement climatique et qu'en particulier, il gaspillerait les ressources en eau. On parle de 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande bovine. C'est énorme. Qu'avez-vous à répondre à cela, Emmanuel ?
Ce chiffre de 15 000 litres est un demi-mensonge. Il correspond à l'eau de pluie qui tombe sur les prairies où pâturent les vaches. Pluie qui tomberait qu'il y a des vaches ou non. En effet, la plupart des bovins français sont élevés à l'herbe. Et c'est une chance pour notre pays, car les prairies sont de formidables réservoirs à carbone qui compensent largement les émissions des gaz à effet de serre des ruminants. Elles abritent de plus tout un écosystème et sont peu sensibles à l'érosion. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas d'agriculture durable sans élevage.
Parmi les sujets particulièrement sensibles touchant à l'agriculture, le glyphosate est, je pense, l'herbicide le plus médiatisé et controversé de tous. Des associations ont fait tester les urines de certains de leurs militants et les résultats ont confirmé la présence du pesticide. C'est bien le signe que l'agriculture française a encore d'importants progrès à faire en matière de protection de l'environnement, mais aussi pour protéger notre santé, François. Qu'en pensez-vous ?
Alors, il faut être extrêmement prudent sur toutes ces analyses et sur toutes ces études qui sont faites. Elles sont vraiment sujets à controverse et il n'y a pas de consensus là-dessus. En effet, savoir si on a analysé le sang, si on a analysé les urines, est-ce qu'on a réellement détecté du glyphosate, est-ce qu'on a détecté des résidus de décomposition du glyphosate, je suis vraiment très prudent là-dessus. La seule chose que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'en France, les conditions d'utilisation du glyphosate et d'application sont extrêmement strictes, plus que dans le reste du monde. Par exemple, on ne pulvérise pas de glyphosate sur les cultures en place, contrairement à ce qui peut se faire avec des OGM en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Russie, en Ukraine, dans quasiment tout le reste du monde. Si bien que pour les productions et les aliments qui sont produits en France, on ne trouve pas de résidus de glyphosate dans ces produits. Et donc, on peut réellement mettre en valeur la façon de travailler française, les normes que nous avons qui nous garantissent une agriculture et une alimentation saine, de qualité et sans glyphosate.
Pour conclure cette émission, j'ai une question toute simple. Qu'avez-vous à répondre, Emmanuel, à ceux qui disent que les agriculteurs traînent des pieds, voire refusent de s'engager dans la transition écologique ?
Je ne suis pas d'accord. Les productions agricoles françaises sont sous contrainte des normes strictes de Bruxelles que renforcent encore nos règles nationales. On peut donc dire sans prendre de risque que la nourriture que nous produisons est une des plus sûres et des plus durables du monde. Nous sommes par essence des professionnels de l'écologie. Chaque jour, nous améliorons nos pratiques sans pouvoir malheureusement augmenter nos prix de vente. C'est pourtant un point crucial pour l'avenir de notre agriculture et de notre indépendance alimentaire.
En résumé, attention à la désinformation qui n'épargne aucun secteur et certainement pas celui de l'agriculture. Merci François, merci Emmanuel pour vos éclairages.
Merci à vous.
Merci.
Pour retrouver l'intégralité des positions de la coordination rurale, rendez-vous sur www.coordinationrurale.fr.
C'était Expression Directe avec ce soir la coordination rurale.